Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Le 1er mai 2011 aura lieu, donc dans quelques jours, la béatification de Jean-Paul II, soit 6 ans et 9 jours après son décès le 2 avril 2005. Donc de façon opportune, les éditions Communio et Parole et Silence viennent de faire paraître Jean-Marie Lustiger, témoin de Jean-Paul II, qui est un recueil, un ensemble de textes, d'entretiens, d'homélies entre 1980 et 2007, du cardinal Lustiger sur Jean-Paul II. Et donc, à la fois pour parler de cette amitié forte entre ces deux hommes, d'une part, et deuxièmement, pour parler de ce livre, nous recevons Jean Duchesne. Jean Duchesne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes normalien, professeur des classes préparatoires, et vous avez été surtout, enfin, surtout du moins pour l'élément de cette discussion, l'ami, on peut dire, de Jean-Marie Lustiger, et vous êtes désormais son exécuteur testamentaire. Vous vous occupez aussi de l'Institut Jean-Marie Lustiger, donc qui a été créé le 8 décembre 2007. Et donc, vous avez publié ce livre, donc Jean-Marie Lustiger, témoin de Jean-Paul II. Alors, ce que je voudrais voir avec vous, c'est deux choses. La première, c'est essayer de mieux comprendre quelle est cette alchimie personnelle entre ces deux individus, de ces deux hommes, cette rencontre improbable entre un pape polonais, ce qui ne s'était jamais vu, et un cardinal archevêque de Paris d'origine juive. Donc, comment les choses se sont faites et comment l'alchimie fraternelle, personnelle, humaine s'est faite entre ces deux hommes d'une part. Et puis, deuxièmement, de reprendre un certain nombre de thèmes qui sont abordés dans ces différentes interventions. Donc, comment est-ce que Jean-Marie Lustiger voyait ou quels étaient les points essentiels du pontificat de Jean-Paul II qu'il notait? Alors, je rappelle juste rapidement quelques éléments biographiques. Donc, Jean-Marie Lustiger est né à Paris, donc le 17 septembre 1926, et ses parents étaient juifs d'origine polonaise, de Haute-Silésie, et donc il a été ordonné prêtre en 1954. Jean-Paul II, lui, et son cadet de 6 ans, il est né en 1920, près de Cracovie, élu pape le 16 octobre 1978. Alors je rappelle cette date du 16 octobre 1978 parce que le 10 novembre 1979, Jean-Marie Lustiger est nommé évêque d'Orléans par Jean-Paul II. Et le 27 février 1981, il est nommé archevêque de Paris, toujours par Jean-Paul II. Alors, première chose, comment est-ce que les hommes, ou quand est-ce que ces deux hommes se sont rencontrés? D'une part, ce qui permettra de poser un peu des bases biographiques. Et puis après, on essaiera de voir quels étaient les points d'accroche, les points de sympathie, d'affinité spirituelle entre eux.
Alors je dirais qu'il y a une première réponse, qui est une réponse un petit peu, en prenant du recul, on peut dire que ces deux oiseaux-là étaient des oiseaux de haut vol, et qu'à l'altitude où ils évoluaient, ils s'étaient forcés de se rencontrer un jour parce qu'il n'y avait plus grand monde. Concrètement, donc, dans la vie de Jean-Marie Lustiger, quand on arrive en 1979, donc il a été aumônier du centre Richelieu depuis son ordination en 54 jusqu'en 69. En 69, il était nommé curé de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal. Ça fait donc 10 ans, il se demande ce qu'il va devenir. Et à ce moment-là, il apprend, à sa grande surprise, qu'il est nommé évêque d'Orléans. Alors, est-ce que ceci est dû à Jean-Paul II personnellement? Pour ma part, je ne le pense pas. Je crois qu'en l'occurrence, le nonce a simplement fait son travail. Vous savez que la sélection des évêques se fait, disons, sur proposition, tous les évêques français, mais et c'est le nonce qui coordonne toutes ces propositions. Donc, sont amenés à proposer des noms. En l'occurrence, je pense que le nonce de l'époque connaissait et appréciait Jean-Marie Lustiger, que c'est une candidature qu'il n'a pas eu de mal à soutenir. Et donc, à une époque, on cherchait des évêques qui, disons, dépassent un petit peu les catégories conservateurs-progressistes. Bon, Jean-Marie Lustiger tombait dans aucune de ces catégories-là. C'était une personnalité. Et donc, il a été estimé, sans, je pense, que Jean-Paul II ait à intervenir au Vatican, que c'est le reste, il devenait l'évêque d'Orléans. Alors, c'était déjà assez extraordinaire en soi, parce que Orléans, c'était pas n'importe où. Ça aurait très bien pu être nommé évêque de Poitiers ou de Saint-Brieuc ou de Nice. Orléans, c'était quand même la ville où il s'était réfugié au début de la Seconde Guerre mondiale. La ville également où il s'était aperçu qu'il était chrétien en entrant dans la cathédrale, déserté et dénudé un vendredi saint. C'est également là qu'il avait été instruit dans la religion catholique par Mgr Courcou, qui était un oratorien et l'évêque de l'époque. C'est là qu'il avait été baptisé. Et donc se retrouver, donc 39 ans après, hein, de 1940 à 1979, évêque d'Orléans, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, un clin d'œil du destin ou de la providence, comme on voudra. Ensuite, alors, on peut dire qu'il y a eu le problème de la succession du cardinal Marty, qui était atteint par la limite d'âge et qui avait remis sa démission au pape, qui était resté en partie pour recevoir le pape en 1980. On peut faire une petite anecdote à ce moment-là. Donc, au moment de cette première visite de Jean-Paul II, c'était le jeune Jean-Paul II, l'athlète. Et donc, j'ai été invité par André Frossard à un petit déjeuner d'intellectuels avec le pape à l'Annonciature. J'y suis parti avec Emmanuel Lévinas, qui était notre voisin à Auteuil. Et à la sortie du déjeuner, Lustiger, que je connaissais déjà un peu quand même, était là à la sortie avec les journalistes, puisqu'il couvrait l'événement pour France Inter. Il faisait une chronique radio tous les jours. On retrouve d'ailleurs dans le livre les extraits que nous avons réunis pour ce livre. Jean-Marie Lustiger, témoin de Jean-Paul II. Donc, toutes les chroniques radio, les deux ou trois interventions qu'il a faites dans la presse à cette époque-là. Alors, donc, Jean-Marie Lustiger était un évêque français comme les autres. Puis est venu le problème de la succession du cardinal Marty.
Donc, vous voulez dire qu'en 1980, vous avez plus vu Jean-Paul II que Jean-Marie
Lustiger?
J'ai eu, moi,
une entrevue avec Jean-Paul II, où je n'étais pas seul.
Oui.
Sans nombre d'autres intellectuels, comme on dit, avec tous les guillemets possibles et imaginables. Donc, ça avait été organisé par André Frossard, qui était un proche de Jean-Paul II à cette époque-là, qui a fait avec lui des livres d'entretien merveilleux. Et Jean-Marie Lustiger, lui, était avec la presse. Alors, après est venu le problème de la succession du cardinal Marty. Et cette succession était assez difficile. On n'arrivait pas, apparemment, à trouver le candidat, l'homme idéal qui pourrait prendre la suite. Cela, on le sait, parce que donc, c'est une confidence que le père, à l'époque, Djivitch, qui était le secrétaire particulier de Jean-Paul II, a faite à Jean-Marie Lustiger, qui a eu l'occasion après, en ma présence, de le répéter à George Weigel, l'écrivain américain, lorsque celui-ci préparait sa biographie de Jean-Paul II. Et donc, à ce moment-là, le père Lustiger a confié à George Weigel que Djivitch lui avait dit que lui, le choix de Jean-Marie Lustiger, avait été le fruit de longues prières du pape.
Et sur quels critères, ou pourquoi lui plutôt qu'un autre? Parce qu'il ne s'était pas rencontré avant, donc c'est ça?
Non, il ne s'était pas rencontré avant, à ma connaissance. Simplement, je crois que Jean-Paul II a détecté là une personnalité qui était à la fois solide, et en même temps aussi peu conformiste que possible. Et que donc c'était quelqu'un qui possédait la liberté, à la fois la liberté et la fidélité nécessaires pour mener à bien cette mission difficile au sortir des années tourmentées ou de remise en question qui avaient été consécutives au Concile Vatican II. Et après, il est clair que les liens se sont resserrés à partir du moment où le cardinal Lustiger a été fait normalement cardinal, c'est-à-dire en 1983, milieu de l'hiver 1983, en même temps que le cardinal de Lubac, que le père de Lubac. Et à ce moment-là, en tant que cardinal, donc Jean-Marie Lustiger a eu un accès, comme l'ont tous les cardinaux, au pape. Mais je crois qu'il a eu un accès, davantage accès que d'autres, auprès du pape, parce que, disons, manifestement, c'était quelqu'un que le pape prenait un certain intérêt à recevoir, quelqu'un dans la conversation duquel il trouvait quelque chose à dire, à redire, à répondre. Quelqu'un aussi peut-être qui était capable de comprendre la manière dont lui, Jean-Paul II, fonctionnait. C'est-à-dire un tempérament non pas politique, mais directement une vision mystique du moment, de l'histoire, et donc des enjeux spirituels du moment, au-delà des considérations portant sur les pouvoirs de force, par exemple.
Oui, quelque chose de prophétique. Enfin, on peut dire qu'il y a d'un côté comme de l'autre, quelque chose, effectivement, une vision un peu prophétique.
C'est ça. Tous ceux qui ont rencontré Jean-Marie Lustiger, je pense, à un moment donné de la conversation, ont été surpris. Il a dit quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Voilà, c'était en quelque sorte le fond de la personnalité de Jean-Marie Lustiger. Et je pense que ce n'est pas quelqu'un à se laisser intimider. Et c'est en même temps quelqu'un qui savait écouter, pas seulement parce qu'il était intellectuellement curieux. Et j'imagine très bien qu'entre ces deux hommes-là, j'ai connu un peu mieux, évidemment, Jean-Marie Lustiger que Jean-Paul II, mais entre deux cerveaux et aussi deux esprits, deux tempéraments spirituels et mystiques de ce calibre-là, ils ne devaient pas s'ennuyer ensemble.
Et donc ça veut dire que jusqu'en 1983, ils ne se sont pas vus. À partir de 1983, donc ayant accès au Vatican comme cardinal, Jean-Marie Lustiger donc a fréquenté Florian, puis après a été invité, parce qu'on le voit effectivement.
Jean-Marie Lustiger va se faire remarquer dans ses interventions. Il y a des interventions qui réunissent des dicastères, on vient présenter des documents au pape, etc. Mmh. Et donc, je suppose, ce n'est pas difficile d'imaginer que Jean-Paul II a détecté que cet archevêque de Paris-là, ce cardinal-là, avait peut-être quelque chose de différent par rapport aux autres.
Et donc, ce qui fait que, de plus en plus, ils se sont vus.
Alors, par la suite et jusqu'à la fin, lorsque le cardinal Lustiger part à Rome pour participer à des réunions de dicastères, c'est-à-dire des différents ministères qui composent le gouvernement de l'Église, il ne manque jamais d'aller voir Jean-Paul II. Donc l'habitude va se prendre progressivement et il ne sera pas rare qu'en revenant de Rome, Père Lustiger dise « Au fait, j'ai vu le pape, il m'a dit ceci ou cela » ou au contraire, on a bavardé et j'ai compris ceci ou cela.
Parce qu'effectivement, dans le recueil de texte d'entretien d'homélie enfin, que vous avez rassemblé, il n'y a pas de notes personnelles au sens d'un journal ou de lettres personnelles qui montreraient de quelle manière est-ce que Jean-Marie Lustiger a été impressionné ou à quel moment est-ce qu'il a effectivement rencontré le pape ici ou là. Donc il y a des documents là-dessus ou ce que vous livrez là, c'est les seuls éléments.
Ce que nous livrons là, c'est ce que le père Lustiger lui-même a dit publiquement.
Oui, absolument.
Et pour le reste, ce n'était pas un homme prodigue en confidence. Surtout sur le niveau intime et personnel. Ce qui est clair, c'est qu'il n'a jamais traité, ne donnait jamais l'impression de traiter avec Jean-Paul II d'égal à égal, mais au contraire vraiment de cadet, de fils, vis-à-vis d'un aîné. Le père Lustiger donne l'impression d'une autorité qui n'a besoin de personne. En réalité, je crois qu'il a toujours été quelque part un fils. Dans toute la période du Centre Richelieu, eh bien, il est le fils du père Charles, qui avait fondé le Centre Richelieu, et qui est pourtant une personnalité très différente de la sienne. Et pendant qu'il est archevêque de Paris, eh bien, il est le lieutenant, le fils, le frère, le jeune frère de Jean-Paul II, en qui il reconnaît un maître. Quelqu'un qui va plus vite et plus loin que lui, malgré tout son enthousiasme et toute sa détermination personnelle.
Alors, quels étaient, selon vous, pour rester toujours sur ces éléments de fraternité ou de filiation entre les deux hommes, quels étaient, selon vous, les points d'accroche particuliers entre eux ? On pense à la Pologne originaire de Jean-Marie Lustiger par parents interposés et de Jean-Paul II. On pense à la question juive. On pense effectivement au prophétisme et donc qu'est-ce que le christianisme va devenir dans les années ou dans les décennies futures ? Vous voyez, quels sont les éléments qui laissent à supposer qu'il y avait cette affinité particulière entre les deux hommes ?
Alors, je ne pense pas que la Pologne ait joué un rôle particulier, parce que Jean-Marie Lustiger, sa mère était née en France, son père y était arrivé depuis longtemps, il n'avait pratiquement aucune relation avec la Pologne. S'il en a eu, c'était plus tard, lorsque des cousins éloignés se sont manifestés, qui s'est rendu dans la ville d'origine de ses parents, Benzin, en Haute-Silésie, etc. Alors, en revanche, il y a deux questions particulières où il me semble que Jean-Marie Lustiger a servi d'interlocuteur à Jean-Paul II. Et vous en avez mentionné une, c'est la question juive, bien évidemment. Je pense que Jean-Paul II n'avait pas besoin que le cardinal Lustiger lui dise ce qu'il devait faire. Mais je me plais à imaginer qu'il pouvait au moins tester auprès du cardinal Lustiger de la sensibilité qu'il avait, qu'on n'a pas si on n'est pas juif. Il pouvait tester donc auprès du cardinal Lustiger la portée prévisible de ses initiatives. Et je crois que cela a été extrêmement important. Je crois que le cardinal Lustiger l'a suivi, accompagné, et en quelque sorte, je ne dirais pas qu'il a été le garant, mais qu'il a été un témoin privilégié de toutes ces initiatives qui vont justement de la visite à la synagogue de Rome jusqu'au pèlerinage à Jérusalem et tout particulièrement au mur des Lamentations. Alors, l'autre question sur laquelle il me semble que Jean-Paul II a trouvé de l'aide, un stimulant ou des idées chez Jean-Marie Lustiger, c'est vis-à-vis de l'état spirituel de l'Europe occidentale. Je pense que Lustiger est un de ceux qui avait le mieux compris, analysé la situation dans laquelle, la situation culturelle, et ça veut donc dire aussi la situation spirituelle dans laquelle l'Europe se trouvait à la fin du XXe siècle. C'est une situation que Jean-Paul II ne connaissait pas. Il avait vécu, grandi, exercé la majeure partie, quantitativement au moins, de son apostolat dans un pays sous la domination communiste. Il était bien informé sur l'Occident, il y avait fait des voyages. Il avait, je pense, besoin, il trouvait au moins un intérêt dans la conversation, dans les idées, dans les analyses de l'archevêque de Paris qui avait véritablement, vis-à-vis du pays dont il avait la charge, de l'ère culturelle dans laquelle il jouait un rôle essentiel, il avait vraiment sur elle un jugement auquel Jean-Paul II pouvait entièrement se fier.
Si je puis me permettre, il y a peut-être un point supplémentaire, c'est qu'on a l'impression que Jean-Paul II se fait une très haute idée de la vocation spirituelle de la France, vocation spirituelle de la France qui, parfois, est supérieure à l'idée même que s'en font les propres évêques de France. Et je pense en particulier à ce qui s'est passé en 1980, lors de son premier voyage. Est-ce que vous pensez qu'il y a là une estimation ou une surestimation, selon l'idée, de la France par Jean-Paul II, qui redonne une valeur supplémentaire ou une importance particulière supplémentaire à Jean-Marie Lustiger ?
Oui, on peut dire cela. Jean-Paul II a une vision longue de l'histoire, c'est-à-dire une vision profonde. Pour quelqu'un comme lui, il est clair que le curé d'Ars, Jeanne d'Arc, Thérèse de Lisieux, je cite vraiment le père de Foucault, je cite en désordre, cela représente pour une nation plus qu'elle n'en a conscience. Et alors là-dessus se greffe, si vous voulez, l'analyse de Jean-Marie Lustiger, qui est que, bien sûr, c'est la communion des saints au niveau horizontal, instantané, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, que nous le voulions ou non, à travers ces grandes figures de saints français, à travers aussi l'effort d'évangélisation prodigieux auquel a consenti le clergé français et les catholiques derrière eux pendant tout le XIXe siècle, chose qu'on ne peut pas oublier, eh bien, d'une certaine manière, les Français aujourd'hui en sont tributaires. Mais ils en sont tributaires comment ? Pas directement. Ils sont tributaires parce que ce sont précisément des tentations, les tentations qu'ils rencontrent, qu'ils éprouvent, auxquels ils sont confrontés, sont à la mesure des grâces reçues. Ça, c'est un thème qui est, me semble-t-il, tout à fait propre à Jean-Marie Lustiger, et c'est enraciné également dans quelque chose qui est la conscience juive. Le juif, excusez-moi, a tout reçu, avant même que le Christ vienne. Et pourtant, il y a la tentation des infidélités. La Bible est pleine de ces histoires. Et donc, c'est une manière, me semble-t-il, de comprendre l'histoire. C'est-à-dire qu'une nation qui a reçu de nombreux saints, qui l'ont marqué, qu'elle le veuille ou non, enfin, en quelque sorte, les péchés, y compris les péchés collectifs, sont à la mesure de la sainteté et de la sainteté collective. Parce que, bien entendu, c'est la loi qui fait découvrir le péché.
Dernier point biographique, avant que de passer effectivement au thème abordé par Jean-Marie Lustiger, il y a effectivement, apparaît dedans, cette maladie progressive de Jean-Paul II, cette faiblesse de plus en plus évidente, qui effectivement touche, affecte Jean-Marie Lustiger, et ce d'autant plus que lui-même, je dirais, est en phase, disons, de vieillesse accrue, enfin, voilà, et donc effectivement va disparaître, enfin va mourir quelques années à peine après la mort de Jean-Paul II. Donc est-ce qu'il y a là aussi, dans la faiblesse physique, un regain de fraternité, d'affection, d'amitié entre les deux hommes ?
Certainement. Enfin, ce qui est remarquable, c'est un simple constat objectif, c'est que jusqu'au bout, Jean-Marie Lustiger demeure un des rares qui ait accès au pape lorsqu'il se rend à Rome. Et je pense qu'il a été un de ceux qui ont le mieux expliqué, justifié, le fait que le pape ne parte pas dans une maison de repos, en expliquant que souffrir, se montrer diminué, c'était une manière de continuer d'exercer son sacerdoce, parce que fondamentalement, ce n'est pas l'exercice d'un pouvoir, mais au contraire, un abandon à la volonté de Dieu. Et lorsque cet abandon signifie le vieillissement, la perte progressive des facultés, eh bien, ce n'est pas une raison pour renoncer à la mission, puisque c'est dans la faiblesse qu'éclate la force de l'amour.
On dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que Jean-Paul II avait dans l'idée de démissionner, enfin, au moment de l'an 2000, et de laisser sa place à d'autres. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des conversations entre eux sur ce point-là ? Et est-ce que Jean-Marie Lustiger a participé à l'idée qui a fini par s'imposer auprès de Jean-Paul II de rester jusqu'au bout, car telle était sa mission et sa vocation ?
Alors, je n'ai aucun renseignement là-dessus. Le cardinal ne m'en a rien dit.
Alors, nous allons faire une petite page musicale et après nous reprenons pour aborder les différents thèmes ou les différents points qui sont évoqués dans ce livre.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Academy. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Academy, à écouter et télécharger sur canalacademy.com.
Nous reprenons donc notre conversation autour de ce livre de Jean-Marie Lustiger, donc témoin de Jean-Paul II, qui est un recueil d'articles, de conférences, d'entretiens et d'homélies, donc entre 1980 et 2007. Et nous recevons Jean Duchesne, donc, qui à la fois est exécuteur testamentaire de Jean-Marie Lustiger et qui a organisé ce rassemblement de documents. Alors nous avons vu dans une première partie un peu quels étaient les éléments un peu personnels, d'affinité à la fois spirituelle et humain entre ces deux individus qui étaient, comme vous l'avez dit au début, dans une altitude qui était sans doute la même et donc au-dessus des nuages, on se reconnaît sans doute plus facilement, pour essayer d'aborder dans une deuxième partie quels étaient les thèmes que Jean-Marie Lustiger indique comme étant les thèmes les plus importants du pontificat de Jean-Paul II. Alors, il y a deux thèmes qu'il indique dès le début. Un, l'idée de la catholicité de l'Église. Jean-Marie Lustiger évoque effectivement les voyages, etc. Donc le caractère universel, première chose. Et très tôt, il évoque ce thème-là. Et deuxième thème, l'idée de l'accomplissement de Jean-Paul II comme celui qui accomplit Vatican II et retrouve son unité organique. Est-ce que vous pouvez reprendre ces deux thèmes-là pour mieux nous les faire comprendre ?
Alors, sur le thème de la catholicité de l'Église, disons c'est quelque chose qui s'impose étant donné l'état du monde et l'état du catholicisme. Si vous voulez, sous le pontificat de Jean-Paul II, il ne faut pas oublier que les effectifs revendiqués par le Vatican dans ses statistiques annuelles sont en augmentation constante. Alors, c'est quelque chose dont on a peu conscience en France, puisqu'on passe son temps à nous répéter que le nombre de pratiquants, de messalisants diminue, le nombre de baptêmes diminue, le nombre de mariages diminue, le nombre d'obsèques religieuses diminue. Oui, mais il y a de plus en plus de catholiques, où cela, en Afrique, en Amérique latine et même en Asie. Donc, cette idée donc, de l'universalité de l'Église. Et alors, Jean-Paul II se trouve véritablement être, c'est un des thèmes développés par Jean-Marie Lustiger, le pasteur de l'Église universelle. Comment ? Alors, non pas en imposant partout l'uniformité romaine, mais au contraire, en montrant que chaque culture locale, nationale, peut être christianisée. Alors, nous avons tous dans la tête des images de cela. C'est Jean-Paul II coiffé de plumes comme un grand sachem indien, ou portant un sombrero mexicain. Ou que sais-je encore ? Donc là, c'est la grande idée qu'on n'est pas catholique, point, mais qu'on est catholique et quelque chose. Vous savez, il y avait un vieux cantique français, catholique et français. Ce n'était pas si idiot, parce que dire qu'on est catholique ne suffit pas. Autrement dit, c'est un plus pour une identité, mais ça ne la remplace pas. Ça la valorise, ça lui permet de s'épanouir, ça la corrige s'il en est besoin, mais ça ne la remplace pas. Alors ça, c'est un des messages très forts qu'a montré Jean-Paul II, en soulignant par ailleurs la portée, alors véritablement universelle, mondiale, des symboles catholiques, des sacrements catholiques. Pourquoi ? Parce que la messe, c'est quelque chose qui se comprend et qui a un sens, et qui signifie quelque chose, qui apporte quelque chose, quelle que soit la langue dans laquelle on la célèbre, quel que soit le folklore dont on l'entoure. Ce qui est important, c'est que demeure la référence avec le pain et le vin à l'événement historique et fondateur de la venue de Jésus-Christ en terre d'Israël il y a plus de 2000 ans maintenant, mais à part cela, c'est un ferment qui est de nature à épanouir n'importe quelle culture, lui permettre de donner le meilleur d'elle-même.
Je rajoute deux éléments. Le premier, c'est que, effectivement, tout le monde se souvient, je crois que c'est un quart de son pontificat qu'il a passé à l'extérieur par les voyages innombrables qu'il a pu faire, d'une part. Et deuxièmement, Jean-Marie Lustiger dit avoir été absolument subjugué par les JMJ qui ont eu lieu à Manille, où il y avait, au moment de la messe, si je me souviens bien, 5 à 6 millions de personnes, et que ça lui a laissé un souvenir, effectivement, absolument très fort, considérant, effectivement, ce que vous dites, c'est-à-dire la catholicité, c'est-à-dire l'universalité, c'est-à-dire que même là-bas, même à Manille, même très loin, et surtout là-bas, il peut y avoir une ferveur que peut-être nous ne connaissons pas ou peu dans nos terres d'ancienne Europe.
C'est-à-dire qu'il faut bien voir que Jean-Marie Lustiger a toujours bien perçu que Jean-Paul II était à la fois un intellectuel et qui, même par rapport au mode philosophique, était en avance sur la situation en Europe occidentale. On avait longtemps quand même été obnubilé par la vulgate marxiste et ses diverses contestations qui en fait ne sortaient pas, mais que c'était aussi un poète et un homme de théâtre, c'est-à-dire quelqu'un qui avait prodigieusement le sens des symboles. et des mythes. Ben, une des choses les plus difficiles pour nous à percevoir, c'est précisément la catholicité de l'Église, c'est-à-dire le nombre de gens simplement que ça représente. Pourquoi ? Parce que même les catholiques qui vont régulièrement à la messe voient une petite assemblée qui peut compter, dans le meilleur des cas, quelques centaines de personnes, rarement plus de 1000. Un rassemblement où on ne peut plus compter la foule, où les journalistes vont dire « Allez, 3 millions, allez, 5 millions, allez, 10 millions, peu importe ». C'est une image qui montre, comment dirais-je, les limites de notre propre imagination et qui nous met en contact avec quelque chose de plus grand que tout ce que nous pouvons concevoir. Alors ça, Jean-Paul II, en présidant ces grands rassemblements, en les désirant, en les provoquant, il a opéré quelque chose qui a changé, on peut le dire, notre vision de la catholicité. Et il l'a fait, je dirais, en homme qui sait manier les symboles, qui sait manier les images, qui s'est donné une image autre chose. C'est tout le problème de sa relation avec les médias. Elle est exemplaire dans la mesure où il s'en est servi, mais s'en est servi comme des moyens. Médium, ça veut dire moyen, n'est-ce pas ? Et c'est-à-dire qu'il n'a jamais laissé le moyen conditionner ce qu'il voulait faire. Il a toujours fait le pari qu'il faisait quelque chose de catholique, que ce quelque chose était fondamentalement une cérémonie qui n'a rien de télégénique au départ, qui est la messe, et qu'il réussissait à en faire quelque chose qui dépasse tout ce qui était prévu, qui fasse éclater les catégories habituelles. Oui, donc, enfin... Et ceci a donné, le pontificat de Jean-Paul II a donné une image prodigieuse de la dimension de la catholicité dans l'espace. Mais on peut rajouter que Jean-Paul II lui a donné aussi, avec les nombreuses béatifications et canonisations auxquelles il a procédé, et pas seulement de saints du XXe siècle, et pas seulement des Polonais, bien évidemment, il a donné aussi une idée, il a suggéré, mais sans le dire de manière aussi plate que je vais l'énoncer, mais la dimension de l'Église et sa catholicité à travers le temps.
Oui, parce qu'il n'y a pas un pape, vous me prenez si je me trompe, il n'y a pas un pape qui a autant canonisé de saints durant...
Voilà, mais ça peut s'expliquer par la longueur du pontificat de Jean-Paul II, mais cela évidemment ne suffit pas. Il y a eu clairement des consignes, une volonté pour proposer un maximum de figures de bienheureux et de saints, tout en respectant les règles qui avaient d'ailleurs été révisées et qui aussi, les nouvelles règles de béatification et de canonisation, donnent une importance très grande aux évêques locaux. Maintenant, ce n'est plus Rome uniquement qui prend les choses en main, mais ce sont les évêques locaux, l'évêque dans le lieu où un vénérable, un candidat à la béatification, à la canonisation est décédé, c'est l'évêque du lieu qui doit diligenter la première enquête. Et donc, c'est une manière aussi d'associer toute l'Église à tout cela et d'associer les évêques et pas seulement les ordres religieux, puisque avant, c'était surtout les ordres religieux qui essayaient de pousser pour la béatification de leurs fondateurs de manière très compréhensible. Jean-Paul II a ouvert beaucoup. Il n'a pas empêché les ordres religieux qui ne font là qu'accomplir leur mission, mais il a également encouragé les églises particulières, les églises locales, à participer à ces processus de béatification et de canonisation.
Un deuxième thème qui revient dans les différentes interventions, c'est effectivement Vatican II, donc on a le sentiment que Jean-Marie Lestiger reconnaît en Jean-Paul II quelqu'un qui va stabiliser, recentrer, retrouver l'inspiration organique originelle de Vatican II. Et lui, Jean-Marie Lestiger, comme vous l'avez dit au début, est sans doute d'autant plus sensible à cela que en France, ailleurs sans doute, mais en France en particulier, il y a eu ce que le père de Lubac appelait des contre-conciles, une lecture, disons, un peu folklorique pour certains, originale, déviante pour d'autres, qui ont suivi Vatican II. Est-ce que vous pouvez un peu nous indiquer qu'est-ce que le cardinal Lustiger reconnaît comme force, force de recentrage, de reprise de l'inspiration d'origine dans Jean-Paul II à l'égard de Vatican II ?
Alors, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, on peut essayer de l'aborder sous un angle un peu particulier, qui est celui un petit peu de la France, si vous voulez. En France, le problème au moment où intervient Vatican II, c'est-à-dire à la fin du deuxième tiers du XXe siècle, c'est que l'Église ne sait plus très bien comment se situer dans la société. Elle l'a considéré jusque-là, malgré des démentis infligés depuis la Révolution française, qu'elle faisait partie de l'identité nationale et que donc, d'une certaine manière, elle était portée par la culture ambiante. Alors, le Concile prend acte de ce que ceci a été simplement un avatar historique dans l'histoire de l'Église, mais que ce n'est pas de soi la situation de droit à laquelle elle peut prétendre. Et donc, le problème est de se resituer. Et à ce moment-là, la tentation, telle qu'elle va se manifester, ça va être de dire, eh bien, nous ne sommes plus rien, d'accord. Eh bien, dans ce cas-là, nous renonçons à toute originalité. Ou plus exactement, nous allons essayer de rejoindre les gens là où ils sont. Alors, Jean-Paul II va procéder à une espèce de recentrage ou de rééquilibrage qui veut dire qu'il y a une distance. Cette distance n'est pas forcément critique. Cette distance, c'est une différence parce que l'Église n'a jamais prôné aucune théocratie. Mais ce n'est pas une distance critique, c'est une distance qui est là pour aider, qui est là pour soutenir, qui est là pour interroger, qui est là pour stimuler, qui est là pour rappeler, qui est là pour proposer, mais qui n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, ni à l'autre extrême pour s'effacer. Alors si vous voulez, d'un côté, vous allez avoir après Vatican II, ce qu'on appelle les conservateurs ou les traditionalistes qui rêvent d'une situation de chrétienté, et ça c'est une vieille tendance dans le catholicisme français, dont le dernier avatar, la dernière erreur de cette tendance-là, politique au moins, a été le régime de Vichy. Et d'un autre côté, vous allez avoir une tendance où on veut dire non, il faut qu'on se fasse aussi discret. Alors, c'est tout ce qu'on racontait, l'Église humble, pauvre et servante, etc. Jean-Paul II a dit non, la vérité se situe véritablement entre les deux. Donc, dans cette différence, qui n'est pas une distance critique, mais qui fait qu'on ne doit pas être lié à la société si on veut pouvoir lui tendre la main.
Il y a une troisième tendance, qui est effectivement la tentation moderne, comme dirait Alain Besançon, qui est celle d'épouser un peu les modes idéologiques, en particulier le marxisme ou le paramarxisme, qui a traversé effectivement l'Église de France de façon importante.
C'est l'idée que l'Église perd sa spécificité et doit se calquer au maximum sur les structures sociales, parce qu'il y a la culture, mais aussi la structure sociale. Vous allez la retrouver quasi mécaniquement au niveau des interrogations sur le sacerdoce presbytéral. Et là, c'est quelque chose que, précisément, Jean-Paul II va recentrer très fortement et très nettement. Il y a d'ailleurs une excellente conférence du cardinal Lustiger qui est donnée à Rome en 2003 pour le 25e anniversaire du pontificat de Jean-Paul II, précisément sur la politique, ou plus exactement la théologie mystique que le pape a mise en œuvre pour essayer de redonner le sens du sacerdoce. Le sacerdoce, si vous voulez, est le type même de cette différence que l'Église garde par rapport à toutes les sociétés.
Alors je renvoie nos auditeurs donc au texte auquel fait allusion. Donc c'est un texte qui s'appelle « Les prêtres, la vie consacrée et les vocations », qui est effectivement une conférence donnée à Rome le 15 octobre 2003. Mais ce recentrage-là, Jean-Marie Lustiger l'avait déjà fait ou l'avait déjà en tête avant même que ces intuitions-là ou ce recentrage-là soient confortés, confirmés par le pontificat de Jean-Paul II.
Oui, mais alors il faut faire intervenir là une autre dimension que Jean-Marie Lustiger est très uni à Jean-Paul II. Il a l'impression de comprendre tout ce que fait le pape, dire quelles sont les motivations profondes. Mais il a en même temps, ça on peut le dire maintenant, même s'il ne pouvait que rester discret pendant le temps où il était archevêque de Paris, même pendant tout le temps où il était encore de son émérita jusqu'à son décès, c'est que le cardinal Lustiger lui-même a pris une direction spirituelle propre et nouvelle pendant qu'il était à Sainte-Jeanne de Chantal, en entrant plus précisément, plus profondément dans la spiritualité ignatienne. Alors ça, c'est un point qui n'est pas encore totalement examiné, si vous voulez, par les historiens, mais dans la vie de Jean-Marie Lustiger, ce qui est important, c'est la rencontre qu'il fait pendant qu'il est curé de Sainte-Jeanne de Chantal, du père Albert Chapelle, qui venait de fonder l'Institut d'études théologiques à Bruxelles. Alors on le voit aujourd'hui, on l'a vu, un certain nombre de séminaristes parisiens sont allés là-bas. Beaucoup de jeunes prêtres qui travaillent aujourd'hui dans le diocèse de Paris et qui prennent des responsabilités de plus en plus importantes ont été formés là-bas. Il y a donc en même temps un renouveau spirituel et théologique et intellectuel qui est donc enraciné dans cette école des jésuites de Bruxelles autour du père Albert Chapelle. Et le père Lustiger est partie prenante et un moteur de l'utilisation de cette expérience et donc de ces outils spirituels. Ça, c'est une particularité biographique qui concerne le père Lustiger et qui, évidemment, ne concerne pas Jean-Paul II.
Oui, il y a un jésuite aussi qui a un rôle important auprès de ces deux personnes, donc Lustiger d'une part et Jean-Paul II, qui est le père de Lubac, parce qu'effectivement, en 1980, quand Jean-Paul II vient en France, il reconnaît le père de Lubac et donc lui reconnaît toute son importance. Et en même temps, Jean-Marie Lustiger a vu, fréquenté relativement régulièrement, j'imagine, enfin, le père de Lubac qui...
Non, à vrai dire peu. Ce que l'on peut dire, sans risque de se tromper, c'est que le père Lustiger a lu et relu les plus grands livres du père de Lubac, mais au moment où le père de Lubac est nommé cardinal, en même temps que Lustiger d'ailleurs, en 1983, le père de Lubac est déjà très fatigué. En revanche, il y a quelqu'un que l'on connaît peu et qui est toujours vivant, mais qui malheureusement est en très mauvaise santé, il souffre d'un diabète qui lui impose une quasi-cécité, c'est le père Michel Salles, qui était le jeune jésuite, né à peu près en 1940, hein, auquel le père de Lubac faisait le plus confiance, et qui, dans la mise en place de l'école cathédrale, du séminaire, du studium, de la faculté de Notre-Dame, jouera un rôle important. C'est donc effectivement le père Michel Salles.
Et qui est membre aussi de l'Institut...
Bien sûr, qui est membre du conseil scientifique de l'Institut Lustiger.
Voilà. Autre point donc, qui est abordé par Jean-Marie Lustiger, c'est la question de la nouvelle évangélisation. Alors, il précise dans ces textes-là que la nouvelle évangélisation, ce n'est pas de l'évangélisation comme avant, considérant, dit-il, qu'il y a eu comme une rupture de transmission dans les jeunes générations et que ce sont des héritiers sans héritage, je reprends textuellement son propos, qui donnent donc un sens nouveau, une nouvelle manière d'évangéliser et illustration ou nouvelle évangélisation qui va donner lieu à ces journées mondiales de la jeunesse développées par Jean-Paul II. Donc comment est-ce que l'un et l'autre, ou comment est-ce que l'un à l'école de l'autre, vont entendre cette nouvelle évangélisation ?
Là, je crois que la communion d'idées et de projets est tout à fait spontanée. Je ne pense pas qu'il y ait eu de conciliabule ou de dire qu'il y ait eu tel, ils sont rencontrés tel jour, telle heure, ils sont ressortis avec tel plan. Le pape lance l'idée de l'évangélisation à Compostelle, si ma mémoire est bonne. Et c'est quelque chose à quoi Jean-Marie Lustiger adhère, parce que c'est quelque chose qu'il sent et qu'il pratique déjà. Et alors, c'est tout le problème, je crois, auquel l'Église est affrontée aujourd'hui. On a un petit peu trop tendance à considérer que la nouvelle évangélisation, c'est une évangélisation de plus successive. Alors que la nouvelle évangélisation, ça veut dire qu'on ne s'adresse pas de la même parole à des gens dont l'histoire et la culture a été christianisée qu'à des gens qui n'en ont jamais entendu parler, dont ça n'a pas été le cas, de manière générale. Et donc, tout le problème est de savoir ce que l'on dit. Lustiger, comme Jean-Paul II, n'ont jamais dit, n'ont jamais concédé « l'Europe est déchristianisée ». Ils ont dit « l'Europe a des problèmes avec sa foi », ce qui est tout à fait différent. Donc l'idée, c'est qu'il y a une manière particulière de prêcher à des gens qui ont perdu la foi. Alors, de manière collective, pas au niveau des individus. Parce que effectivement, on ne parle plus de zéro. Parce que on peut très bien comprendre tout ce qu'il y a dans l'Évangile, mais ne pas arriver à y donner ce qu'on peut appeler l'adhésion du cœur. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait distinct de la catéchèse, qui est distinct de l'apologétique et qui réclame un discours, des moyens, d'un style nouveau et particulier.
Alors, dernière question, au regard du constat que l'un et l'autre ont fait de la situation de foi ou spirituelle ou chrétienne de l'Europe, pour ne parler que de l'Europe, quels étaient, selon eux, les moyens, les voies, les perspectives qui leur laissait supposer que cette foi perdue, ou cette religion perdue dans une terre qui restait chrétienne, allait pouvoir, d'une manière ou d'une autre, naître, renaître autrement, réapparaître dans les terres d'Europe qui avaient oublié ou qui ont oublié cet héritage chrétien.
Le pari est clair et net, hein, c'est de dire qu'il fallait s'adresser aux jeunes générations. Autrement dit, tout l'effort pastoral, comment faire pour s'adresser aux jeunes générations parce que c'est ceux qui n'ont pas d'a priori, justement. Et comment les convaincre que non seulement que c'est une option possible, mais encore de prendre le risque de s'y engager. Si vous voulez, ce qui est difficile aujourd'hui, la substance de ce que prêche aussi bien Jean-Marie Lustiger que Jean-Paul II, c'est « oui, c'est vrai, aujourd'hui la foi est un risque ». Oui, ce discours vous surprend parce que toute notre société est fondée sur l'art d'éviter, de réprimer, d'éliminer même le risque. Ce risque, êtes-vous prêt à le prendre ? Ayez confiance, car si vous vous y lancez, si vous le prenez ce risque, vous ne serez pas seul. D'abord, vous aurez des frères, ensuite, Dieu lui-même vous y aidera. Il y a là toute une pédagogie qui essaye de redonner le sens de l'acte de foi en montrant à la fois à quel point c'est un acte d'audace, mais en même temps, c'est un acte de confiance. Il y a là toute une dialectique qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui peut avoir un côté exaltant.
Écoutez, merci beaucoup donc de nous avoir présenté ce livre. Donc Jean-Marie Lustiger, témoin de Jean-Paul II. Je rappelle donc que le cardinal Lustiger est mort en 2007, le pape Jean-Paul II en 2005, et que donc, effectivement, d'une certaine façon, au moins dans la conscience chrétienne et catholique française, les deux resteront, d'une manière ou d'une autre, toujours associés.
Si je peux mettre un mot de conclusion, je pense que Jean-Marie Lustiger est très heureux que Jean-Paul II soit béatifié Il le dit dans une interview qu'il a donnée. On lui demande « Souhaitez-vous qu'il soit béatifié ?» Il répond « Oui ». Il donne une raison. Et cette raison, c'est peut-être cela, je pense, qu'il l'a aimé le plus, qui était le plus proche de lui. Il dit « Quand vous l'avez vu prier, vous sentez que cet homme-là est entièrement possédé par Dieu. » Et donc, la béatification n'est qu'un premier pas dans la reconnaissance de ce don de lui-même qu'a fait Jean-Paul II à Dieu et à ses frères.
Dans des éléments de souvenirs personnels, page 145, Jean-Marie Lestiger, je crois que c'est au moment d'une JMJ, dit « Jean-Paul II priait comme un bûcheron donne des coups ». Il retrouvait, après toute une cérémonie, etc., il le retrouvait seul dans une chapelle, alors qu'il y avait beaucoup de bruit autour, et il dit « Jean-Paul II priait comme un bûcheron donne des coups ». Donc effectivement, cet enracinement dans la prière était une chose très importante, pour l'un comme pour l'autre aussi. Jean Duchesne, merci beaucoup donc d'être venu nous rendre visite. Donc je rappelle, publié par l'Institut Jean-Marie Lustiger, auquel vous appartenez, Jean-Marie Lustiger, témoin de Jean-Paul II, article, conférence, entretien, homélie 1980-2007, publié donc par Communio et Parole et Silence. Merci.